Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection d'un texte tiré du média suivant, La pratique en mouvement. Au programme, La douance n'est pas une maladie. Bonne écoute.
La douance n'est pas une maladie. Un texte de Pascal Grégoire, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, chef du département adjoint de pédopsychiatrie et chef médical du programme Autisme du CIUS du Nord de l'île de Montréal, professeur adjoint à l'Université de Montréal, ainsi que de Véronique Langlois, doctorante en psychologie de l'UQO et psychoéducatrice au programme Autisme du CIUS du Nord de l'île de Montréal, ainsi que de Laurent Motron, psychiatre au programme Autisme du CIUS du Nord de l'île de Montréal, chercheur et professeur titulaire au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Ce texte est paru dans la revue « La pratique en mouvement » en octobre 2021. La notion de douance réfère à des capacités exceptionnelles. On retrouve utilisés de manière quasi synonyme les termes de douance, de surdouance ou de haut potentiel intellectuel, HPI. On pourrait s'attendre à ce que ces termes n'évoquent que des aspects positifs, comme le terme français « don » ou son équivalent anglais « gifted » le suggère, un cadeau de la nature. Pourtant, le grand public et les médias, soutenus en cela par certains professionnels, assimile le terme de douance à un diagnostic qui expliquerait des dysfonctionnements scolaires ou personnels, parfois mieux que ne le feraient les diagnostics pédopsychiatriques ou les caractérisations neuropsychologiques existantes. Cette compréhension de la notion d'intelligence très supérieure a des conséquences sur la relation de la personne avec le système de santé et les services scolaires, ainsi que sur sa perception de soi. Nous allons tenter d'y voir plus clair, mais devrons, avant d'arriver à la douance, parler de la manière dont on comprend et mesure l'intelligence. Historique de la mesure de l'intelligence. Dès les années 1860, un courant né aux États-Unis reconnaît que chaque enfant a un rythme d'apprentissage différent. Cela mène au développement de parcours scolaires adaptés au rythme et au talent. De premiers travaux théoriques et empiriques tentent de définir l'intelligence et de la mesurer. La première moitié du XXe siècle voit apparaître les tests d'évaluation de l'intelligence. Le but de ces études est autant de contribuer à l'organisation du système scolaire que d'optimiser l'allocation des jeunes recrues à des postes militaires ou encore à l'orientation des immigrants. Ainsi, en 1905, est publié le test Binet-Simon mesurant l'âge mental, en quantifiant séparément diverses capacités intellectuelles comme la mémoire, l'imagination, l'attention, le sens esthétique et la force musculaire. Il vise à détecter les enfants à besoins particuliers. Le test évolue vers celui de Stanford Binet en 1915 qui mesure 6 fonctions distinctes, verbales et non verbales, et dont la moyenne donne un quotient intellectuel QI verbal, non verbal et global. Et il identifie par convention la moyenne du QI de la population générale à une valeur de 100. Le test, qui deviendra la norme planétaire de la mesure de l'intelligence, les échelles de Wechsler est développée aux États-Unis selon les mêmes principes en 1939 et sous sa forme actuelle en 1955. Ce test en est à sa 5e version pour enfants, WISC, et à sa 4e pour adultes, WAIS. Il mesure différentes fonctions, à l'aide d'épreuves graduées en difficulté, certaines requérant le langage pour être comprises et pour y répondre, d'autres seulement pour être comprises. En parallèle, mais selon un principe différent, Raven publie en 1936 son test des matrices, qui mesure le raisonnement non-verbal à l'aide d'une tâche unique, contrairement aux échelles de Wechsler, qui comprennent une dizaine de sous-tests. Dans cette tâche, la personne doit choisir l'image qui complète une matrice de forme. Comme ce test est non-verbal, il est censé être plus indépendant du niveau de langage ou d'éducation de la personne. Ce serait le test le mieux corrélé avec le facteur G, construit pour représenter la corrélation entre la performance à l'ensemble des tâches effectuées par un individu ou un groupe d'individus, donc le niveau d'aptitude général. Chacun de ces tests a subi de multiples révisions et actualisation de leurs normes, en particulier du fait de l'effet Flynn, qui est l'accroissement des capacités intellectuelles générales de la population mondiale au cours des années. Bien que la notion d'une capacité unique, intelligence générale ou fragmentée en différentes fonctions puisse les opposer, tous ces tests permettent de mesurer l'écart d'un individu à la moyenne de la population. On retrouvera aux deux extrémités soit des individus particulièrement doués ou, au contraire, des personnes présentant des limitations intellectuelles. Examinons maintenant les définitions de l'intelligence impliquées par ces différents tests. L'intelligence est complexe. Question et modèle. Une ou plusieurs intelligences? L'excellence peut se limiter à un seul type d'habileté, comme le hockey, inclure tout un ensemble d'habiletés qui partagent des traits communs, c'est-à-dire être bon dans les sports en général ou concerner l'ensemble des domaines d'habileté. Pensons à un astronaute qui a parallèlement réalisé des études en médecine. Y aurait-il donc une seule intelligence ou plusieurs intelligences? Un modèle souvent cité, celui de Gardner, 2006, permet d'énumérer différentes habiletés pouvant chacune atteindre un niveau d'excellence ou, à l'inverse, de déficit, sans forcément entraîner les autres habiletés dans leur ascension ou dans leur chute et dans lequel les regroupements par domaine seraient relativement arbitraires. Ce modèle propose 8 types d'intelligence: linguistique, logico-mathématique, spatiale, intrapersonnelle, interpersonnelle, corporelle, kinesthésique, musicale et naturaliste. Dans ce modèle, le niveau d'habileté atteint dans un domaine serait indépendant du facteur G. L'intelligence est le facteur G. Le concept d'intelligence comme étant une aptitude générale représentant la performance dans toutes les tâches qu'effectue un individu est fort complexe quand on essaie de le définir et donc de le mesurer. Carroll, 1993, propose un modèle intégratif, dit hiérarchique en 3 strates. Ce modèle distingue 3 niveaux d'habileté intellectuelle. Les habiletés spécifiques, les habiletés plus larges, raisonnement fluide impliquant la réflexion rapide et flexible face aux problèmes nouveaux, et le raisonnement cristallisé, associé à l'accumulation de connaissances, et enfin les habiletés générales, soit le facteur G, qui englobe les raisonnements fluides et cristallisés. Dans un test d'intelligence comme l'échelle WISC, le score global est en quelque sorte une représentation du facteur G. Par conséquent, on assume qu'il existe une corrélation entre les performances aux différentes tâches. On autorise néanmoins une certaine autonomie entre les compétences ou l'obtention d'un profil individuel. Celui-ci est représenté par les résultats obtenus à chaque tâche individuelle, mais présentés ensemble. On peut ainsi distinguer des personnes plutôt verbales ou, au contraire, plutôt non-verbales, mais aussi extraire un niveau global exprimant leur corrélation. Il est avisé de ne pas interpréter ce niveau global QI quand les écarts entre les différents domaines sont trop importants. Parlons alors d'un profil hétérogène, car le score moyen obtenu ne permettrait pas de rendre compte justement des scores obtenus aux différentes tâches. Le quotient intellectuel QI et ainsi issu de la mise en commun des performances obtenues aux différents sous-tests de l'échelle une fois ramenées à un score normatif. Par exemple, pour mesurer le QI d'une personne à l'aide de l'échelle WISC, il faut la soumettre à un ensemble de sous-tests, par exemple, vocabulaire, compréhension, et comparer le score qu'elle obtient à celui de la population générale du même âge. Les performances de cette population seront distribuées selon une courbe normale de Gauss. La majorité de la population se trouvera au centre de la distribution, en haut de la cloche. À l'extrême gauche se trouveront les moins performants et à l'extrême droite, les plus performants. Vous écoutez présentement « La douance n'est pas une maladie » de Pascal Grégoire, Véronique Langlois, Laurent Motron, paru dans la revue « La pratique en mouvement » en octobre 2021. L'intelligence, l'acquis et l'adaptation. La distinction entre l'intelligence fluide, indépendante de la culture, et l'intelligence cristallisée, représentée par des connaissances explicites accumulées, a été essentielle pour montrer que des groupes humains de cultures différentes ou de milieux plus ou moins favorisés pouvaient avoir le même potentiel. Ajoutons les notions d'entraînement et d'expertise qui réfère à l'amélioration des performances d'une personne qui a été exposée à un certain matériel ou s'est surentraînée à une tâche et dont les effets viennent potentialiser les distinctions énoncées jusqu'ici. En fait, le concept d'une capacité générale est plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, quelqu'un peut réussir très bien les tests qui mesurent l'intelligence, mais se débrouiller plutôt mal dans la vraie vie. C'est la distinction entre intelligence et adaptation, ou selon les termes anglais, entre « book intelligence » et « street intelligence ». Cette dernière est intégrée dans la définition de Sternberg, 1986, proposant que l'intelligence soit la capacité à apprendre de son expérience et à s'adapter dans sa vie. On peut tenter aussi de les réunir, comme dans le modèle de Gottfredson, 2003, qui propose de définir l'intelligence comme une aptitude cognitive très générale qui implique, entre autres, la capacité de raisonner, de planifier, de résoudre des problèmes, de penser de manière abstraite, de comprendre des idées complexes, d'apprendre de façon rapide et efficace, notamment par le biais des expériences vécues, dépassant ainsi l'apprentissage uniquement de nature scolaire. En somme, on peut se demander jusqu'à quel point les différents domaines de compétences sont reliés entre eux dans la population générale ou chez une même personne et comment ces compétences apparaissent ou se développent. Par exemple, de manière remarquable, des profils assez précis peuvent caractériser des groupes de façon particulière, comme les personnes autistes. En effet, si on étalonne un test d'intelligence de manière que la moyenne de la population générale soit de 10 à tous les sous-tests, plusieurs personnes autistes présenteront des creux ou des pics à certaines des tâches. Au WISC, on retrouve des forces aux sous-tests similitudes, informations et vocabulaire, et plus particulièrement au bloc design, et une faiblesse dans une tâche de jugement pratique et social, le sous-test compréhension. Toutefois, la présence ou l'absence de ces pics d'habileté ou de capacités adaptatives pourra varier considérablement dans un même groupe, que les personnes soient autistes ou qu'elles aient un développement neurotypique. Par exemple, Caron et collaborateurs, 2006. Quelques notions techniques impliquées par la notion de douance. La place de l'intelligence dans la douance. Sur le site de l'Association québécoise des neuropsychologues, il est indiqué que l'évaluation du quotient intellectuel avec un test d'intelligence standardisé est nécessaire pour qu'on puisse parler de douance. On y recommande également que soient réalisés des entretiens auprès des parents et professeurs ainsi qu'une enquête sur d'autres caractéristiques personnelles de l'enfant, par exemple créativité, motivation, personnalité, notamment à l'aide de questionnaires standardisés. La douance réfère donc, en premier lieu, à la notion d'intelligence très supérieure. Techniquement, elle correspondrait aux 2,3% de la population, deux écarts-types au-dessus de la moyenne, ayant un QI supérieur à 130. Ce chiffre est choisi pour être symétrique avec la définition administrative de la déficience intellectuelle, qui comprend les 2,3% d'individus les moins performants au test intellectuel se trouvant à l'autre extrémité de la courbe de Gauss. En raison des nuances indiquées plus haut, ce chiffre global de 2,3% peut cependant représenter une description tronquée des capacités d'un individu. Selon le modèle de la douance de Renzulli 2005, celle-ci se divise en haut potentiel scolaire et haut potentiel créatif. Pour les caractériser, il propose que trois composantes soient en interaction : l'intelligence, la créativité et l'implication. Que la mesure à l'aide d'une échelle standardisée et normalisée ne représente pas tout le concept de douance ne signifie pas que l'on puisse conclure à un diagnostic de douance sans utiliser de mesure. Tout d'abord, la douance ne devrait pas être considérée comme une condition pathologique. Ensuite, il existe un danger bien réel que cela entraîne une opinion arbitraire et subjective variant selon les cliniciens. Enfin, la mesure de l'intelligence est fondamentalement continue. Ainsi, marquer une distinction nette des performances au-dessus et au-dessous du seuil de 130 de QI n'est pas représentatif de cette continuité. On ne peut raisonnablement pas dire qu'on est doué à 131 et pas à 129, impliquant ainsi une définition catégorielle de la douance en tout ou rien. Une convention ne doit pas être prise pour un objet circonscrit dans la réalité. Par ailleurs, l'intelligence mesurée par le QI, même très élevée, ne garantit absolument pas une contribution sociétale exceptionnelle ou un génie. Si on mesure le QI de personnes douées ayant et n'ayant pas fait de réalisation exceptionnelle, il n'y a pas de différence de QI entre elles. McIntosh 2011. En revanche, la réussite scolaire, le revenu et bien d'autres avantages sont largement corrélés positivement à l'intelligence. Derry and Collaborateur, 2007. Débat sur les caractéristiques associées courant optimiste et pessimiste. Ces dernières années ont vu fleurir dans les médias des affirmations que les personnes douées pouvaient être dysfonctionnelles. Des parents se sont regroupés sous cette bannière avec le soutien et l'assentiment de certains professionnels, ce qui soulève de vives critiques. Gauvry et Ramu, 2017. Le concept de douance était ainsi devenu, pour certaines personnes, un facteur de risque de situation de handicap, une justification à l'échec scolaire, une maladie que l'on diagnostique et pour laquelle on propose même une prise en charge spécifique. Les tenants de ces courants de pensée affirment ainsi que les personnes ayant une douance pourraient souvent avoir des difficultés relationnelles ainsi qu'un diagnostic pédopsychiatrique. Le plus souvent, on retrouverait le syndrome d'Asperger et le trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH. L'enfant doué, par ces différences, serait ainsi davantage à risque de difficultés d'adaptation, de symptômes anxio-dépressifs et de démotivation scolaire. Certains évoque comme hypothèse sous-jacente aux difficultés vécues par ces enfants un mode de pensée particulier, dit « en arborescence » et un développement asynchrone consistant en un décalage entre leur facilité d'apprentissage et leur maturation affective, cette dernière pouvant être plus lente. Pourtant, Il n'existe pas de données solides pour étayer ces affirmations, voulant que la douance soit associée à des difficultés d'apprentissage ou de fonctionnement social. Vorel et collaborateurs, 2019. Les études, pour une revue, voire Tordjiman et collaborateurs, 2018, évoquant chez les enfants doués une propension aux échecs scolaires, sont réalisées à partir d'échantillons d'enfants qui reçoivent déjà des services plutôt que puisés dans la population générale des enfants à QI élevé. Il s'agit donc d'échantillons biaisés qui ne représentent pas adéquatement la population des enfants doués. En revanche, même si toutes les personnes douées n'ont pas d'excellents résultats scolaires, les résultats scolaires restent hautement et positivement corrélés à l'intelligence sur de grands groupes d'individus. Un examen critique de tout ce qui s'écrit sur les difficultés cognitives ou psychopathologiques qui seraient associées à la douance révèle que l'intelligence, quel que soit son niveau, n'est pas un facteur de protection ou de risque pour les difficultés. La douance colore l'expression des difficultés pouvant être vécues par un individu. Par exemple, un autiste qui a un quotient intellectuel de 135 aura des intérêts particuliers plus riches, décrira ses difficultés sociales de manière plus raffinée, mais ses particularités en lien avec l'autisme pourront être tout aussi importantes que celles d'un autiste ayant une intelligence dans la moyenne. De plus, il pourra utiliser les particularités autistiques de son intelligence de manière plus aboutie. La combinaison de l'autisme et d'une grande intelligence peut d'ailleurs, en recherche, donner lieu à des créations puissantes et novatrices. Tous les génies ne sont pas autistes, et tous les autistes ne sont pas des génies. Certains le sont. Il faut leur permettre de s'épanouir. Motron, 2011. Qu'en est-il des jeunes doués dans le système scolaire? Nourrir l'intelligence est un devoir dans une société que l'on pourrait qualifier de développée. Que ce soit pour tenter de contrer les difficultés réelles ou fictives nommées plus haut ou pour stimuler au maximum le potentiel des enfants doués, diverses recommandations concernant le dépistage et la création de programmes scolaires adaptés ont été émises à travers le monde. Dans la seconde partie du XXe siècle, des associations de douance ont émergé et des programmes scolaires adaptés sont donc apparus. Plusieurs pays ont des programmes pour les enfants doués, mais ils ne sont pas tous actualisés ou implantés. Au Québec, après quelques débats, il a été choisi jusqu'à maintenant de ne pas inclure la douance dans les besoins scolaires spéciaux. Pourtant, il apparaît important que les besoins de chaque enfant soient considérés, incluant celui d'être stimulé à la hauteur de son potentiel. Vous écoutez présentement « La douance n'est pas une maladie » de Pascal Grégoire, Véronique Langlois, Laurent Motron, paru dans la revue « La pratique en mouvement » en octobre 2021. La douance en psychopathologie, explication alternative, diagnostic différentiel ou spécificateur clinique. Une tendance occasionnelle, mais préoccupante, dans certains milieux cliniques, est de considérer que lorsqu'un enfant est porteur d'un diagnostic pédopsychiatrique, par exemple le TDAH ou l'autisme, et que l'on découvre chez lui une intelligence supérieure, cette dernière devient l'explication principale de ses difficultés. De la même manière, quand l'enfant n'a pas encore de diagnostic et que l'on découvre chez lui une intelligence supérieure, il ne faudrait pas que la douance soit annoncée comme l'origine de ses problèmes, avec une intervention spécifique comme solution clé en main. Cette tendance repose sur certains articles de la littérature scientifique dans lesquels la douance est vue comme un facteur de risque à la psychopathologie ou encore que certaines conditions cliniques comme l'Asperger et la douance ont un recouvrement fondamental. Boschi et collaborateurs, 2016. Cette conception de la douance est entretenue dans l'imaginaire collectif par certains personnages de séries télévisées. De Sheldon à Sherlock, en passant par Lisbeth et Saga, où l'enquêteur omniscient, présenté avec des traits autistiques, résout les énigmes avec une perspicacité inouïe. Le concept de diagnostic différentiel implique d'analyser les symptômes d'une personne afin d'identifier quelles conditions diagnostiques peuvent le mieux les expliquer. La comorbidité, ou double diagnostic, est constatée lorsque deux conditions cliniques sont présentes chez une même personne. Dans le cas de la déficience intellectuelle, il est exact que celle-ci soit considérée comme une comorbidité et qu'elle puisse expliquer des difficultés rapportées à une condition psychiatrique. Certains diagnostics, comme l'autisme, imposent cependant que cette explication ne soit pas suffisante. Il pourrait donc être tentant ou logique de considérer l'autre extrémité de la distribution du QI de la même manière. C'est ici que le concept de double exceptionnalité, qu'a un collaborateur 2019, fait son entrée lorsqu'un diagnostic neurodéveloppemental ou psychopathologique est associé à la douance. Puisqu'on ne devrait pas considérer la douance comme un diagnostic, la notion de spécificateur semble cependant pertinente et plus neutre. Un spécificateur est une dimension de la personne qui colore de manière particulière son tableau clinique et qui peut ne pas être de nature pathologique. L'âge, le sexe et le niveau d'intelligence peuvent notamment être considérés comme des spécificateurs. L'évaluation approfondie de la spécificité des symptômes à une condition et la manière dont ils sont modifiés par des spécificateurs sont donc nécessaires dans un processus de diagnostic différentiel et rigoureux. Par exemple, avant d'invoquer la pensée divergente d'un enfant ayant un QI très supérieur, il conviendrait de différencier une richesse associative liée à l'intelligence d'une association non contrôlée causée notamment par une distractibilité accrue telle que retrouvée chez les personnes ayant un TDAH. Les deux peuvent se confondre pour le clinicien et peuvent même coexister chez la même personne. Le même type de démarche distinguera l'expertise issue d'un intérêt autistique intense, d'une douance ou de l'effet d'un entraînement. Les recommandations psychoéducatives et pédopsychiatriques différeront grandement dans chacune de ces situations. C'était « La douance n'est pas une maladie » de Pascal Grégoire, Véronique Langlois et Laurent Motron, paru dans la revue « La pratique en mouvement » en octobre 2021.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Diane Métayer à la recherche, Nicolas Zarban à la présentation et au montage.